20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 et rendez-vous maintenant au rayon vêtements pour le monde d'après.
À l'approche de la fin des soldes, après-demain, mardi, et en plein bouleversement au sein du secteur, question sur notre façon de consommer demain en matière d'habillement. Bonsoir Gilles Daminviel.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire économique à l'Institut français de la mode. D'abord sur les soldes, encore un mauvais cru cette année ?
Alors, particulièrement mauvais, mais c'est pas une vraie surprise, puisqu'en fait, on est dans un contexte de consommation qui est complètement exceptionnel avec la crise sanitaire qu'on a connue. Et à l'Institut français de la mode, nous avons effectué une enquête au bout des deux premières semaines de soldes, et la tendance est environ de moins 15% comparé aux deux premières semaines de soldes de 2019. Donc, on est tout à fait dans un contexte de consommation Covid, si vous voulez.
La crise que l'on vient de traverser, elle a aussi accéléré les difficultés d'un certain nombre d'acteurs du secteur, Lal, André ou Camailleux. Est-ce que ça acte, Gilles Daminviel, la fin d'un modèle ? Est-ce que demain, l'offre se réduira soit au pas cher, type H&M ou Primark, soit au plus haut de gamme ?
Non, non. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec du moyenne gamme. Je pense que le moyenne gamme a des difficultés, particulièrement parce que la crise a été très impactante pour ce type de business model. Mais si vous voulez, il n'y a pas de fatalité à l'échec du moyenne gamme. Il se trouve effectivement que le contexte de la consommation de mode a été radicalement changé ces 15 dernières années, et on est dans un contexte où les consommateurs changent leur mode de consommation. Et il y a eu des épisodes particulièrement difficiles hein, pour les distributeurs. On se rappelle des gilets jaunes, on se rappelle des mouvements sociaux. Et le Covid a été un impact très, très fort. Et ça a particulièrement touché le segment du moyenne gamme, parce que c'est un segment où les acteurs sont particulièrement nombreux, en fait. Hein. C'est pas forcément lié au business model de ce segment de marché.
Alors la mode, dont on rappelle aussi souvent son impact sur l'environnement, deuxième source de pollution mondiale, une industrie grande consommatrice d'eau. Bonsoir, Rim Travelsi.
Bonsoir.
Vous avez récemment co-créé l'application Clear Fashion pour apporter justement un peu de transparence sur les vêtements que l'on achète. Elle fonctionne comment d'abord, votre application ?
Alors, Clear Fashion, en effet, c'est une application qui est disponible donc sur les stores depuis septembre 2019, donc c'est très jeune. Donc l'application, elle permet d'évaluer les marques et les vêtements selon leur impact social et environnemental. Donc en fait, c'est très simple. Si vous demandez justement à quel point votre marque préférée, par exemple, est éco-responsable, par exemple Adidas, Levi's, Petit Bateau, Lacoste, vous parliez de la Halle, il suffit tout simplement de taper son nom et sur l'application, et vous obtenez une analyse rapide sur quatre thématiques qui sont justement les conditions des travailleurs, l'environnement, la santé et les animaux. Donc, par exemple, là, j'ai tapé Petit Bateau et vous allez obtenir justement un score de 68% sur la partie conditions des travailleurs, 64% sur la santé, 58% sur les animaux, 33%, voilà. Vous allez avoir un détail d'information et si vous souhaitez avoir plus d'informations, il suffit de cliquer, vous allez comprendre toutes les pratiques de la marque, en fait.
Ouais. Avec quelques mois d'existence, est-ce que vous voyez déjà les marques évoluer vers plus de clarté, plus de traçabilité ?
Alors, depuis, nous, ça fait donc 9 mois qu'on est existant et on a réussi déjà à évaluer plus de 200 marques. Et sachant qu'il y en a déjà plus de 100 qui participent. Donc ça veut dire qu'ils jouent le jeu de la transparence avec nous et qu'ils nous apportent des informations sur leur manière de fabriquer les vêtements. Donc où sont leurs usines, quels sont leurs contrôles, est-ce qu'ils s'engagent par exemple sur le bien-être animal, etc.
On pense à l'application Yuka en matière d'alimentation qui a poussé les industriels à faire évoluer leurs recettes. Votre ambition, c'est un peu la même ?
Oui, bien sûr. Notre ambition, c'est déjà d'apporter aux consommateurs des informations qui sont aujourd'hui inaccessibles, en fait. Les seules informations en tant que consommateur qu'on peut avoir, c'est le made in, mais en fait, on sait très bien qu'il ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est un secteur où les vêtements, quand il est écrit, même quand il est écrit made in France, en fait, le coton, il ne vient pas de France. Donc, oui. Donc ça ne nous aide pas trop. Les seules informations qu'on a en plus, ça va être la composition. Donc, comment savoir comment être consommé de manière responsable, comment essayer de soutenir peut-être des marques qui produisent de manière locale, qui font le choix d'utiliser des matières responsables, sans avoir ces informations. Bah, nous, notre rôle, c'est justement d'apporter ces informations aux consommateurs. Là, on est déjà très fiers. En 9 mois, on est déjà 150 000 utilisateurs, donc citoyens qui s'informent avant d'acheter. Et en plus de ça, en effet, plus on est nombreux en tant que citoyens à s'informer, et plus en fait ça va aussi montrer aux marques, aux industriels, qu'on a l'envie et le besoin que ça change. Nous, on voit bien que quand on contacte les marques, la première chose qu'on va dire, c'est « votre marque a été demandée par 2000 personnes le dernier mois ».
Oui.
Et c'est ça qui va convaincre les marques, en fait.
Justement, Gilda Minvial, du côté des consommateurs, cette envie de mieux et peut-être de moins aussi, est-ce qu'elle est notable? Est-ce que vous, à l'Institut français de la mode, vous l'avez déjà identifiée?
Absolument. Toutes les enquêtes que l'on conduit, en fait, montrent qu'il y a un véritable mouvement, qui est aussi un mouvement qui n'est pas propre à la mode, hein, qui est un véritable mouvement de société, avec une attente de valeurs plus responsables, une attente de produits plus respectueux de l'environnement, des conditions sociales de fabrication. Et donc, les consommateurs sont à l'origine aussi d'un mouvement, et je pense qu'ils stimulent en effet les entreprises qui, du luxe au mass market, s'emploient à justement satisfaire ces nouvelles attentes des consommateurs.
Et pourtant, il y a quand même ces grandes enseignes qu'on appelle de fast fashion, avec des cycles de production extrêmement courts et des quantités de production très importantes. Ce modèle-là, malgré tout, il est aussi et toujours dominant.
Alors, en fait, on observe, même chez les acteurs de ce modèle-là, que vous appelez la fast fashion, donc il faudrait revenir sur une définition peut-être un peu plus précise de ça, mais on n'a sans doute pas le temps.
Dites-nous rapidement.
On parle beaucoup de fast fashion, mais les entreprises qui pratiquent véritablement la fast fashion sont des entreprises qui sont adeptes de circuits courts, qui s'approvisionnent en proximité, etc. Donc il y a plutôt quelque chose de vertueux, hein, de mon point de vue, dans la fast fashion. Mais ce que vous désignez par fast fashion, c'est sans doute la distribution organisée, qui, il est vrai, n'a pas été toujours très respectueuse de l'environnement. Mais c'est vrai que ce que j'observe dans les enquêtes, y compris dans les enquêtes que nous faisons auprès des entreprises, c'est que quel que soit le segment de marché, c'est une préoccupation qui est de plus en plus prégnante, c'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises sont soucieuses de respecter l'environnement, essayent justement de s'approvisionner de façon plus raisonnable, de façon à mettre sur le marché un peu moins de produits. C'est aussi leur intérêt, hein. C'est bon pour leur marge, dans la mesure où lorsqu'on a trop de produits à solder, si vous voulez, c'est pas bon pour les marges des entreprises. Donc, il y a une certaine mesure qui se fait, y compris dans les approvisionnements des distributeurs, qui est tout à fait conforme aux intérêts de l'environnement, si je puis dire.
Ouais, des acteurs qui prennent conscience aussi de ces enjeux durables et responsables. Le confinement, il a aussi accéléré la tendance de la seconde main. Ça fait partie de cette prise de conscience qu'on peut consommer différemment. Ça, c'est durable?
Alors, le confinement a changé beaucoup de choses. Il a accéléré la digitalisation aussi. Il a fait en sorte que les consommateurs se sont en fait rabattus en quelque sorte sur une consommation de produits sur Internet. La seconde main, c'est aussi une tendance de consommation, vous avez raison, mais il faut aussi être réaliste. Le moteur de consommation de la seconde main, c'est parfois le prix, et c'est pas forcément le respect de l'environnement. Donc il y a aussi, si vous voulez, dans l'éco-responsabilité, il faut être bien précis, et je pense que on parlait de la matière tout à l'heure, et je pense que la matière, c'est très important, c'est ça qui cristallise les exigences en termes d'éco-responsabilité. Je pense qu'il faut de plus en plus utiliser des matières éco-responsables. Il faut aussi recycler la matière de façon à la réintroduire en économie circulaire dans le cycle de production. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut faire des progrès encore pour aller vers davantage d'éco-responsabilité. Mais c'est un mouvement, qui depuis quelques années est en train de se faire et qui est notable, hein, c'est pas une mode entre guillemets.
Recyclage et matière, ce sont forcément des mots Rim Trabelsi, vous qui vous font réagir à Claire Fashion.
Oui, bien sûr, ben nous on prend en compte forcément l'impact de la matière, c'est 50% en fait de l'impact environnemental d'un vêtement, donc c'est ce qu'on va regarder en premier en fait quand on regarde l'impact environnemental d'une marque et même d'un vêtement. Mais c'est vrai qu'on regarde aussi les conditions de travail, donc quand on parle de fast fashion ou quand on parle justement d'entreprises industrielles, c'est là multinationale, en fait c'est là où justement on a de nombreux risques quand ces entreprises vont s'approvisionner peut-être dans des pays à risque. En ce moment, d'ailleurs, on parle du grand scandale des Ouïghours. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est justement 83 multinationales qui sont soupçonnées justement de faire travailler de manière forcée la population Ouïghour en Chine. Donc là, il y a une quarantaine de marques dans le textile qui sont soupçonnées justement de participer à ça. Donc finalement, il y a en effet la matière, c'est important. Mais il y a aussi les conditions de travail, oui. En fait. Et on, en tant que consommateur, je pense que si on savait, on serait très nombreux à vouloir plutôt soutenir des entreprises qui créent de l'emploi à côté de chez nous ou même ailleurs, plutôt que des entreprises qui font faire du travail forcé, du travail des enfants ailleurs.
Ouais, donc une mode durable, mais aussi éthique, c'est ce que vous défendez, Rim Trabelsi, cofondatrice de l'application Clear Fashion, Gilda Mainvielle de l'Institut français de la mode. Merci à vous également d'avoir été avec nous ce soir pour cette projection dans une mode de demain, dans la mode de demain. Bonne soirée à vous.
Merci beaucoup.